franceinter.fr.
Merci Denis.
Alors Karim, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas. C'est pas facile de faire des choix.
Lesquels?
C'est bien quand on est enfant, on n'a pas de soucis dans la tête. On pense à rien. Le rêve, ça fait mal à la tête.
Les filles, vous m'entendez?
Yes, sir. We hear you.
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez.
On a R2.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una R2.
We're gonna be fine.
Don't go away now.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
En cinéma, on appelle ça un chant contre chant. Le chant, c'était samedi dernier avec les élèves d'une prestigieuse école de cinéma, la Fémis. Aujourd'hui, contre-champ sur un garçon qui rêve de cinéma autrement, sans école ni concours, à bout de bras, cette année, pour mener à bien son projet, à l'arrivée un film plein d'énergie et de désir. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Il ne s'agit pas d'opposer une grande école à celle de la vie, mais plutôt de constater sur pièce un résultat. Le film sur l'écran, et celui-là vient de loin. Bonjour Danuzan.
Bonjour.
Nous nous marierons et donc votre premier film signé de votre sang, pourrait-on dire, tellement vous vous êtes investi dans cette histoire, celle d'un jeune boxeur Karim qui ne veut pas renoncer à sa passion tout en devant assumer financièrement un mariage et une promesse de vie rangée. Et comme vous mélangez harmonieusement fiction et réalité, votre héros est un vrai boxeur. Bonjour Karim El Ayani.
Bonjour Christine.
Désormais entraîneur, certes, mais acteur dans ce film, tout comme votre beau-frère de fiction. Bonjour Sofiane Kesraoui.
Bonjour Christine.
Non-acteur, quel drôle de qualificatif, tellement en une scène, un repas, vous imposez votre présence. Merci d'être là tous les trois pour nous raconter l'aventure de ce film, sorti mercredi, il s'appelle « Nous nous marierons ». En face de vous cette semaine, un concours, celui de la Fémis, un Scorsese, des Frères de la Nuit, un paysan de Calabre et une certaine jeunesse américaine.
Et Nelson et Yo-Yo là-bas.
Voilà une salle d'entraînement de boxe comme si on y était dans Nous nous marierons. Pas besoin de concours pour réussir dans le cinéma, Danuzan, et pourtant beaucoup d'épreuves réelles, matérielles, financières. C'est quoi le plus difficile finalement, trouver de l'argent ou garder le désir?
De loin, garder le désir.
Oui,
de très loin. Et surtout, en ces temps de fabrication, on a le temps de douter de très très nombreuses fois. D'autant plus quand on fait un film où on n'est pas épaulé, je dirais, par un cadre, une structure classique de fabrication, où on tente des choses, on essaye d'hybrider du documentaire, on essaye de montrer des visages qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui était pour moi une des premières impulsions à fabriquer ce film. Donc tout ça, finalement, concourt finalement à créer le doute. Mais c'est un doute à un moment qu'on essaie aussi de réintégrer dans le récit.
Vous avez été désespéré parfois?
Désespéré, non. J'ai pas été désespéré. J'ai douté de ce que j'étais en train de faire en prenant totalement conscience que c'était un processus qui allait nourrir la création. Je prenais conscience à chaque étape que le doute allait me permettre finalement de réinterroger mon image. Et ça, finalement, c'est ce qui m'a sauvé et qui m'a permis d'entretenir un lien avec mes rushs et le temps que je consacrais à l'image.
Et on peut se sentir seul dans un procédé ou un processus qu'on peut penser collectif à première vue.
Mais je pense que de toutes les manières, enfin, j'ai pas l'expérience de 10 films derrière moi, mais je pense que l'expérience d'être réalisateur est une expérience de solitaire. Il y a des techniciens, il y a un réalisateur. D'ailleurs, un film qui, pour le coup, moi, m'anime un peu quotidiennement, c'est André Roublev de Tarkovsky, où pour recontextualiser un petit peu, on est face à un gamin qui perd son père. Son père construit une église. L'église est déjà bien avancée. Il y a un carillon à monter. Et le carillon et la cloche ne sont pas fabriqués. Et ce gamin dit être le récipiendaire du secret de son père devant ces notables qui sont tous très, très embarrassés. Et cette cloche, il va la fabriquer lui, en disant que le père lui a donné le secret. Et quand le car... et donc on est persuadé qu'il lui a donné le secret, on n'en doute pas en réalité, la force du film est là. Ouais. Et quand à un moment on voit ce plan sublime de la cloche qui va taper le carillon, ça sonne, il pleut, une pluie salvatrice, et le gamin, main dans la glaise qui lui a permis de fabriquer le clocher, dit « je ne savais pas comment faire ». Donc je crois que vraiment, une fois qu'on a compris ce message, on a compris qu'en réalité, un réalisateur n'est pas un technicien, un réalisateur est quelqu'un d'inspiré. Et je me sentais inspiré avec ces gens.
À l'arrivée, ce film, Nous nous marierons, qui est sorti mercredi, on va ouvrir cette émission avec une BO d'un doc, vraiment de Jim Jarmusch, qu'on a beaucoup aimé,
oui.
Gimme Danger, sur les Stooges, et voici un extrait, un morceau des Stooges qui s'appelle Lose.
Look out.
Nous nous marierons de Dan Uzan qui est sorti mercredi. On parlait de vos prénoms et de vos noms et de la signification, dont Dan Uzan, c'est le juge, Karim El Ayani, Karim, c'est le généreux, et Sofiane Kesraoui, c'est le sabre, on verra ça tout à l'heure. Dan Uzan, on ne vous connaît pas, donc qui êtes-vous ?
Présentez-vous.
Oui, non, mais qui êtes-vous ?
J'ai l'impression d'être devant une porte de boîte de nuit.
Voilà.
Qu'est-ce que vous faites ici ? On ne fait rentrer que les habitués.
Non, justement, vous n'êtes pas un habitué.
Eh ben non, justement.
C'est ça qui est intéressant.
C'est pour ça que je vous dis que vous étiez très courageuse et courageux de me recevoir.
Non, mais non, pas du tout. Alors qui êtes-vous, d'où vous venez? Le cinéma est venu quand, est arrivé quand dans votre vie, le désir de cinéma?
Je crois que je l'ai toujours eu. Je crois que je me suis jamais envisagé de manière différente. Par contre, pendant la fabrication du film, je me suis aperçu que, effectivement, on parle d'une quête de quelqu'un qui cherche à s'exaucer, et finalement, à travers ce film, je m'exauce d'une certaine manière, et je me rends compte aussi du poids du sacrifice et de toutes les autres choses que j'aurais pu faire s'il n'avait pas fait ce choix. Donc, la question de ce qu'on pourrait appeler la réussite, c'est une vaste question. C'est bien plus compliqué de déterminer ce qui est une réussite face à ce que pourrait être un échec.
Plus clairement, Dan, le désir de cinéma donc est là depuis longtemps. Vous avez commencé à tourner, notamment un court-métrage, et puis un jour, vous vous êtes mis à boxer.
Exact.
Pourquoi ?
Parce que j'avais besoin de me défouler, et que j'avais très très envie d'être dans un sport où, socialement et culturellement, théoriquement, j'étais pas invité. Ça m'intéressait de faire. Je crois que le sport est très prescriptif. C'est-à-dire qu'on fait des sports dont on a l'impression qu'on y est presque invité. Je veux dire, on a mis dans le 16e, on va plus avoir tendance à faire du golf que d'aller faire de la lutte gréco-romaine. Quoique, peut-être qu'il y a quelques boxeurs ou lutteurs ailleurs, mais je dirais que c'est l'exception.
À la boxe, vous rencontrez Karim.
Je rencontre Karim.
Karim, il était doué, Dan, en boxe.
Franchement, il avait.
Oui, franchement.
Ouais, il avait...
C'est le moment.
Non, il avait quelque chose, il avait la niaque, en fait. Mm-hmm. Donc, c'était un battant, on va dire. Bon, au début, l'entraîneur qui s'occupait de nous à l'époque était un petit peu réticent quand il a vu sur sa licence qui venait du 16e arrondissement. Mais bon, ça n'a pas empêché que, voilà, dans les premiers temps, on va dire, il lui prêtait pas beaucoup d'attention. Mais ensuite, il a fait ses preuves avec nous qui étions des compétiteurs.
Est-ce que j'allais dire, vous étiez professionnel?
Ah oui, nous, on était professionnels. Oui,
ouais.
Professionnels, et il y avait des boxeurs amateurs de haut niveau. Donc voilà, il a tenu la route, entre guillemets. Il a tenu bon à beaucoup de coups. beaucoup de coups.
Mais vous l'avez bijouté en quelque sorte quand même, non?
On peut dire ça, on peut voir ça comme ça en fait. Bon, c'est un petit test match d'entrée. Et puis il avait envie, il était vraiment passionné par ce sport, donc il s'est accroché avec nous et il a intégré le groupe des compétiteurs tout en étant un loisir entre guillemets.
Dan, vous repérez quand même au milieu de tous ces garçons, vous repérez particulièrement Karim. Qu'est-ce qu'il avait de différent, Karim, des autres?
C'est compliqué, c'est-à-dire que il y avait tellement de singularité dans cette salle que j'ai pas eu une évidence tout de suite pour Karim. Par contre, ce que ne dit pas Karim, parce que je sais même pas si on en a parlé, mais moi j'écrivais une fiction.
Oui.
Et j'étais très embêté parce que quand je rentrais de mes entraînements et que j'écrivais presque à chaud certaines scènes, je me disais mais merde, qui va pouvoir jouer Karim dans le rôle de Karim, qui pourra jouer Youssef dans le rôle de Youssef?
Ouais.
Et je me suis dit bon, on va relayer cette question à bien plus tard. Ce sera déjà bien que je finisse un scénario et que je trouve un producteur. Donc la question du casting, on la mettra à plus tard. Mais j'étais très très embêté parce que je ne voyais pas dans la cosmogonie des acteurs français quelqu'un qui pourrait, ou des personnalités qui pourraient interpréter ces boxeurs.
Karim, comment vous avez réagi quand enfin Dan vous a dit « tu vas avoir le rôle » ?
Alors, dans un premier temps, c'était plus un documentaire. Donc voilà, il voulait me suivre pour ma préparation de boxeur professionnel.
Oui.
Je passais tout juste des rangs amateurs à la boxe pro. Donc c'était un nouveau monde pour moi. Malgré que ce soit le même sport, c'est totalement différent. On est plus entouré de la même manière, on rencontre des personnes différentes. Mais une fois qu'il m'annonce que en fait son documentaire se transforme en film, en long métrage, bon, j'ai pris un petit peu ça à la rigolade au début. Ça m'a fait rire, mais en même temps j'étais partant parce qu'à la base Dan c'est un ami que je fréquentais à la salle et en dehors de la salle. Donc il m'a dit on va tenter l'aventure. Je lui ai dit Dan pourquoi pas, c'est parti, allons-y.
Karim est donc votre personnage qui est blessé dès le début du film, qui va voir un médecin, il doit passer par une opération pour un poignet, qui le médecin lui dit qu'il ne pourra pas boxer professionnellement comme il l'a fait avant. Je vous propose d'écouter un extrait où vous quémandez un entraînement.
Karim, quand tu boxes, tu cries pas comme ça, si?
Comment?
Quand tu boxes, tu cries pas comme ça.
Ça dépend.
Ah ouais?
Ça vient instinctivement. C'est la rage qui... C'est la haine.
Ah ouais. Ils font tous ça, le Valois, là?
Comment?
Ils font tous ça, le Valois,
j'ai mis ça.
Ça.
Ah ouais. On est une chorale. Le chef d'orchestre, c'est Denis Farias.
Ah oui.
Bah ouais. On crie, on évacue.
Ouais, ouais, je comprends.
Ça nous aide à...
Mais vous ne faites pas en combat. Vous n'avez pas le droit.
On a peur de créer l'arbitre.
Voilà, c'est ça.
Francis, une petite leçon. Vite fait, c'est quoi, Francis? Vite fait.
Une leçon vite fait, c'est pas une bonne leçon.
Ça sonne, là.
Ouais.
Francis, ça me saoule, le sac, là.
Nul Marie Ron, c'est formidable ce mélange entre fiction et réalité, là. C'est vrai, quoi. C'est juste. Alors, la boxe, elle a été énormément abordée au cinéma. Dan Uzan, vous avez voulu vous en éloigner. Bien sûr, vous citez Rocky, mais Raging Bull, marqué par la haine. Gentleman Jean, et même il y a 100 ans, Chaplin a fait ce film Charlot Boxeur, qui est merveilleux. Je sais pas, vous l'avez vu, Karim, ce
J'ai
film?
J'ai vu des petits extraits, ouais.
Oh non, mais c'est, ouais. il est tout fluet, et il danse, et il ne fait qu'esquiver, en fait.
Exactement. Ouais. Exactement, ouais. C'est...
Donc, c'est pas un film sur la boxe. C'est un contexte.
C'est un film qui va se servir de la boxe pour parler d'autre chose.
Oui.
Mais en fait, je parle de la passion. Qu'est-ce qu'on fait quand on est animé? Qu'est-ce qu'on fait quand on est tenu? On est tenu par une passion. Ça aurait pu être l'histoire d'un danseur ou peu importe.
D'un type qui voulait faire du cinéma.
Exactement.
Exactement.
Mais oui. Vous avez senti ça, Karim, chez lui, chez Dan Uzan?
Franchement, oui, parce que c'est pas.
Cette combativité.
Oui. Tout à fait, il a du mordant. Et comme je dirais, moi aussi, je trouve que c'est pas un film sur la boxe. Connaissant très bien la boxe, car c'est mon milieu, je trouve ce qu'il a voulu mettre en avant, comme il vient de dire Dan, c'est plus la passion. Alors que ça soit la boxe ou le cinéma ou devenir réalisateur ou autre chose, on sent cette envie dans le film qui est beaucoup mis en avant.
Est-ce que dans la vraie vie, on vous a empêché de boxer, Karim?
Non, pas du tout.
Non.
Non. En fait, après ma blessure, j'aurais pu reprendre la boxe professionnelle. Mais bon, les aléas de la vie ont fait que j'ai voulu mettre ça de côté et passer à autre chose pour pouvoir construire une vie familiale. Et comme j'étais déjà entraîneur, du coup, j'ai pas. Voilà.
C'est le sujet du film, Dan.
C'est là où en réalité, la fiction arrive.
Ouais.
Parce que je sentais, quand je tournais autour de Karim avec ma petite quincaillerie, qu'à un moment, il fallait prendre un embranchement vers un ailleurs que le documentaire. Et quand je me souviens très bien de ce jour, je crois que je lui pose la question, on est sur le rond-point des Champs-Élysées, on partait voir un film. Et je lui dis, mais comment t'envisages ton futur? L'intervention chirurgicale avait eu lieu. Bon. Il m'a dit, mais moi, c'est bon, j'arrête. Je voulais goûter à la boxe pro après avoir passé 15 ans sur des rings. Mais maintenant que j'y ai goûté, c'est bon. Mission accomplie, j'arrête. Et moi, instantanément, je me souviens, dans la voiture, je me suis dit, le documentaire s'arrête aussi. Et maintenant, on va partir du principe d'imaginer quelle aurait été sa vie si il n'ait pas fait ce choix.
Alors justement, dans cette fiction, Karim est amoureux d'une femme qui s'appelle Faten, qui a déjà une vie derrière elle, et notamment un enfant. Il veut lui assurer un beau mariage. Il va chercher pendant tout le film 6 000 euros qu'il va essayer d'emprunter à la banque, pas possible. Cette Faten, qui n'est pas actrice, vous l'avez rencontrée dans la rue.
Exactement. En bas de mon bureau.
Oui.
Il y avait un petit café dans lequel on allait prendre... de temps en temps un verre avec ma monteuse de l'époque, qui est devenue ma scénariste. Mmh. Et on l'aperçoit avec son oncle, il n'était pas encore avec Sofiane, qu'on a rencontré plus tard. Mmh. Et je vais la voir, et son oncle me regarde avec des yeux gros comme ça, et je lui dis, écoutez, je vous rassure, ce n'est pas un plan foireux, je suis pas en train de draguer cette personne, je sais pas à ce moment-là que c'était sa nièce. Je lui dis simplement, voilà, écoutez, si vous voulez monter aussi, venez voir, j'ai un bureau qui est juste au-dessus, et je crois que je pourrais prendre Faten comme actrice si elle le souhaite, mais il faudrait qu'elle rencontre le comédien, et c'est ce qui s'est produit.
Faten a un frère. Ce frère, c'est Sofiane qui est là avec nous. Vous êtes dit, non mais c'est quoi cette histoire de cinéma, quoi?
Tout à fait.
Vous avez eu peur?
C'était pas de la peur, c'était plus de la méfiance. C'est-à-dire que quand Faten est venue me voir à la maison et qu'elle m'a raconté qu'elle avait rencontré un réalisateur qui lui a proposé un rôle dans la rue. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben voilà, moi, les contes de fées, j'y crois pas trop. Quelqu'un qui vient vous voir dans la rue, qui vous tape sur l'épaule et dit, j'ai un rôle pour toi. Pour moi, c'est des choses qui n'existent pas. Donc à partir de là, j'ai demandé à rencontrer Dan.
Oui.
Pour voir exactement ce qu'était ce projet. Et à partir de là, j'ai rencontré, on a fait connaissance, et c'est là qu'il m'a proposé de jouer le rôle du grand frère.
Mais alors, comment vous avez réagi? Pareil, même question qu'à Karim, mais comment vous avez réagi?
Ah, mais là, je me suis dit, mais finalement, peut-être que les contes de fées, ça existe vraiment. Et bien évidemment, moi, j'ai accepté tout de suite, même si je ne savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais. Je savais qu'il fallait dire oui.
Pourquoi? Évidemment, pourquoi oui, comme ça?
Parce que c'est pas tous les jours, déjà, d'une, qu'on vous propose un rôle. Et de deux, je me suis dit, c'est une opportunité qui se présentera plus jamais à moi. Donc tout de suite, j'ai accepté.
Est-ce que vous comprenez le rôle que vous incarnez, à savoir ce type qui a très peur que sa sœur s'engage avec un garçon qui ne gagne pas sa vie?
Mais c'est une réaction tout à fait normale. Je pense que si ça m'arrivait dans ma vraie vie, avec ma vraie petite sœur, je pense que je réagirais comme ça.
On écoute une scène de repas et on en reparle après.
C'est pas toi qui vas payer le mariage?
Ben...
C'est pas toi, non?
Non, en fait, lui, ce qu'il...
Non, mais attends, laisse-moi, parce que dis, je parle pas. C'est pas toi qui vas payer le mariage?
C'est moi,
mariage,
c'est pas moi.
Et ben alors, pourquoi depuis tout à l'heure, t'es là?
Admettons qu'un jour, Fethen, elle est marque, tu bosses pas. Admettons, dans deux ans, elle se dit, putain, Karim, fais chier, tu bosses pas.
Sofiane, je suis une grande fille, Sofiane.
Ben, c'est moi qui devrais supporter les galères de Fethen à ce moment-là.
Qui t'a dit ça? Pourquoi tu
penses que tu es pessimiste comme ça? J'essaie de réfléchir. Ouais,
pourquoi tu penses que du mal? Tu penses pas, tu penses pas le bien?
Moi, je demande pas ce que Fatina se marie avec un médecin. Que le gars il gagne 5 000 euros, 10 000 euros. Je m'en fous de ça. Moi, je suis comme tout le monde, je suis un smicard. Mais moi, ce que je voudrais voir, c'est un lascar qui se lève le matin. Que même s'il bosse pas, il va chercher du boulot.
Ouais, mais là, t'es en train de me juger.
Mais moi, je suis un...
Moi, tous les matins, 6 heures, je suis debout, je fais mes footings.
Oui, d'accord. Tu pourras courir autant que tu voudras, mais pas assez pour nourrir une famille.
Ça, c'est toi qui penses.
Vous voyez, je parle avec lui, je ne mange pas, hein. Il peut me répondre tout seul, il a besoin ni de Fethen ni de Raouf. Hein.
Non,
je ne vais pas mettre un malaise, moi.
Je veux dire, on était là pour dîner, pas pour se prendre la tête.
Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là?
Ouais, de toute façon, là, je ne vais pas tarder à y aller. On va te faire un petit bisou petit avant de partir.
Le petit, il dort, tu vas le réveiller?
Non, il va juste l'embrasser, Sofiane.
Ils sont pas acteurs, mais en fait, ils sont acteurs. Il s'agit de Karim El Ayani et de Sofiane Kesraoui. C'était improvisé, Sofiane, ces scènes?
Alors moi, ce que j'ai trouvé super, je savais même pas que ça existait, c'est-à-dire que Dan nous a laissé un petit peu de liberté. Et notamment la scène du dîner, j'ai pas capté le truc direct. Donc on a refait la scène, toujours pas compris. Donc Dan, il est venu s'installer à côté de moi. Il m'a dit, fais comme si j'étais pas là. Il m'a dit, joue ta scène. Et au fur et à mesure que j'ai joué ma scène, il me disait ce que je devais faire. Et au bout d'un moment, je me suis vraiment senti investi par le personnage. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu le déclic. C'était pendant la scène du dîner, j'ai compris qu'est-ce qu'il fallait que je dise, ce qu'il fallait que je fasse, le comportement que je devais avoir. Et à partir de là, tout a découlé tout seul.
Et le plaisir est arrivé?
Ah oui, j'ai eu du plaisir à tourner cette scène et toute celle d'après.
Et Karim, pareil pour cette... Parce que les scènes où on vous voit avec l'entraîneur, etc., c'est votre vie. Oui. Mais cette scène-là, c'est une vraie scène de cinéma.
C'est une vraie scène de cinéma. À ce moment-là, justement, moi, dans ma vie personnelle, j'étais en train de préparer mon vrai mariage. Voilà. Et mon beau-frère, c'est un amour. Donc, quand on me dit que ce beau-frère-là n'acceptera pas trop que je vienne demander sa sœur en mariage, tout en sachant qu'à côté, j'avais une très bonne situation. J'avais l'impression un peu d'être un schizophrène.
Un rôle de composition,
mais
en
exactement,
fait.
Exactement, j'avais deux personnalités. Donc dans le film, je devais me battre pour me faire accepter par ce beau-frère. Et dans la vraie vie, j'avais mon vrai beau-frère qui était super content que je me marie avec sa sœur.
Tu l'as appelé après la séquence, non? Tu lui diras sûrement, tu m'aimes toujours.
Et du coup, non, c'était un petit peu difficile à jouer, mais bon, Dan nous donnait les grandes lignes et l'état d'esprit qu'il fallait avoir durant cette scène.
C'est quoi être acteur, Sofiane?
Alors moi, vous donnez la définition de...
Non, votre ressenti.
La mienne, ma définition à moi.
Ouais, votre ressenti.
Alors pour moi, être acteur, c'est quelqu'un qui vous dirige. Vous avez un réalisateur qui vous dit, voilà, tu vas jouer telle scène, il faut que tu la joues comme ci, comme ça. Mais dans le contexte du film de Dan, c'était pas du tout pareil, parce que comme je vous ai dit, on avait vraiment beaucoup de liberté. Comme disait Karim, il donne des grandes lignes. Tu dois dire ça, mais tu peux le dire à ta façon, avec ton phrasé, avec tes mots à toi.
Comment vous vous trouvez dans cette scène, Karim? Est-ce que vous avez su vous regarder?
Cette scène, elle ne me ressemble pas du tout. Donc, c'est pourquoi je dis ça. C'est un personnage, on va dire, tout le temps sur la défensive, grincheux, jamais content. Ça ne me ressemble pas. Moi, c'est plutôt les ambiances détendues, paisibles, la rigolade.
Enfin, alors, en même temps, vous êtes confronté à quelqu'un qui vous ennuie, qui vous embête, qui dit... Donc c'est normal que vous soyez pas
Oui, c'est normal, mais bon, je pense que dans la vraie vie, j'aurais réagi autrement.
Ah oui.
Ça aurait pas duré aussi longtemps, en fait.
Donc vous l'auriez mis un pain, quoi.
Je me serais peut-être énervé un peu plus rapidement. Voilà,
justement, on va vous entendre vous énerver dans une scène à la mairie de Levallois.
Exact.
Vous avez tourné dans la vraie mairie?
Dans la vraie mairie.
D'accord, on en reparlera de Levallois après.
Vous êtes
un peu inquiète pour vous, donc vous offre un rendez-vous avec une concierge qui vous offre un boulot d'entraîneur, et ça tourne mal.
Qu'est-ce qui t'a pris?
Attends, mais Karim, qu'est-ce qui t'arrive?
Contente de toi, là? T'as fait quoi, là?
Bah ouais, je suis contente. Le rendez-vous qu'on a eu, Karim, c'est pour toi et moi, quoi.
Pour toi et moi?
Bah oui, c'est pour nous que
je... Si je t'ai demandé quelque chose, moi? Je t'ai rien demandé.
Non, mais attends, Karim...
Tu manques de rien, non? Mohamed, il manque de rien.
À ce jour, oui, pour l'instant,
pourquoi
oui.
Pourquoi t'es là à mendier du boulot?
Sur le long terme. Mais attends, je m'en dis pas du boulot,
J'ai pas envie d'entraîner des marmots, moi, tu sais très bien.
Je l'ai fait pour nous, Karim.
Tu l'as fait pour toi?
Non, j'ai fait pour nous, Karim.
Pour toi
et moi. Et Mohamed.
Tu manques de quelque chose? Est-ce que vous manquez de quelque chose?
Karim, tu te moques de moi? On vit même pas encore ensemble.
Et alors? T'es pas content, tu vas voir ailleurs. On arrête tout ça maintenant.
Dans une mairie, là. On n'est pas...
Je m'en fiche des gens, moi.
Bah vas-y, va boxer, va. Fais ce que tu penses que tu peux.
Bien sûr, je vais boxer. Tu crois que tu vas me changer quelque chose à ça?
Le jour où Mohamed aura besoin de toi, le jour où j'aurai besoin que tu payes un loyer, des charges. Moi, le jour où je bosse pas, on fait comment? Tu peux nous assumer, mais moi? Tu peux pas, Karim?
Mais tu penses à trop de choses en même temps, toi.
Karim,
fais ce que tu veux, mais tu touches pas à ma
Karim,
boxe. C'est pas, tu rentres pas dans ma vie. Parle pas en même temps que moi. Tu rentres pas dans ma vie. Laisse-moi parler. Écoute-moi quand je te parle. Tu touches pas à la boxe. Soit tu me prends comme ça, soit tu te casses.
Je te prendrai pas avec tes gants de boxe. Tu peux toujours être marié avec si tu veux. Espèce de sale égoïste. Va, connard, va.
Karim El Ayani, pour un type qui aime pas s'énerver, là, c'est plutôt réussi comme rôle de composition. Donc, Danuzan tournée dans la vraie mairie de Levallois, c'est bien cette ville où il y a plein de caméras, plus la vôtre.
Exactement.
Ouais. C'était compliqué.
Plus les nôtres. Non, franchement, ils ont été
adorables.
Adorables, mais véritablement. Non, mais ils nous ont mis à disposition.
Comme quoi. Hein.
Beaucoup de belles choses. Des simplifications pour tourner dans les salles de boxe parce que c'est pas évident. Des simplifications pour tourner dans des bus municipaux. Donc. Vraiment, ils ont été fantastiques.
Vous avez dit, j'ai lu quelque part, vous avez dit, quand j'ai commencé à tourner, je faisais très peu confiance à la capacité de jeu de mes acteurs.
Bien sûr, puisque je n'ai pas d'acteurs en face de moi.
Ouais.
Mais c'est très curieux, c'est vous qui êtes allé recruter les gens dans la rue. Donc...
Totalement, mais moi aussi, on parlait du doute tout à l'heure, donc il fallait que aussi ce doute se dissipe pas à pas.
Mais vous ne vouliez pas l'acteur professionnel, c'était une volonté?
Ben, c'est pas tant que je ne voulais pas, c'est qu'à un moment, je commençais à être sur un chemin... de documentaires où j'avais envie de les amener ailleurs, mais j'avais pas réellement la certitude qu'ils étaient capables. Donc j'avançais pas à pas, et la scène du dîner, puisqu'on en parlait, ça a été un moment d'épiphanie où un moment je prends conscience qu'en réalité c'est nous qui nous cloisonnons à croire qu'il n'y a que des comédiens pour jouer.
Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que d'habitude, ce genre de scène, ça arrive à une femme. C'est une femme la victime. Qu'on va absolument marier, ou qu'on a, vous savez, qu'il y a plein d'obligations. Là, tout d'un coup, c'est l'inverse. Ça arrive à un garçon.
Totalement. Et en même temps, on laisse aussi des choses sur lesquelles on s'est interrogé avec Oriane, ma co-auteure, où à un moment, quand on dérush et qu'on voit que Fétaine respecte la parole de son frère, on peut totalement imaginer que dans d'autres lieux, avec d'autres manières de table, eh ben, une femme va dire « Non mais de quoi tu te mêles ?» Et là, elle le fait pas. Donc à un moment, on se dit « Il y a du particularisme culturel qui est important de comprendre, de saisir et d'écrire autour de ça. »
Deux points, ouvrez les guillemets.
Merci. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire? Sofiane, avec tout le respect que je te dois.
Ouais.
Tu m'as déjà haché une fois.
Ouais.
D'accord? J'ai rien dit.
Mais je te préviens, tu me feras pas ça une deuxième fois. C'est pour ça, va droit au but. Qu'est-ce que tu me veux aujourd'hui? Pourquoi tu me fais rentrer ici?
Karim, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que t'arrêtes de me voir comme un ennemi. Je suis pas ton ennemi. Je suis, Inch'Allah, ton futur beau-frère. Et chez nous, Karim, les musulmans, quand on offre un thé à quelqu'un, c'est pas pour entrer en conflit. Est-ce que tu sais dans quel état je l'ai vu fêter hier soir? C'est-à-dire que moi, je sais ce qui s'est passé à la mairie. Et Fatane, elle a fait tout ça pour vous. Elle n'a pas fait ça pour elle et pour Mohamed. Hein. Elle a fait ça pour sa future famille. Et sa future famille, c'est toi. D'accord? Donc, Karim, moi, je vais dire un truc. Fatane, ça fait un petit moment qu'elle est chez moi déjà. Et elle peut rester encore 25 ans. Mais évidemment, je préférais qu'elle ait son chez elle. Et apparemment, il va être avec toi. Et moi, je veux savoir, ma sœur, dans quoi elle s'embarque. Parce que moi, je ne laisserai pas partir. Hein. Si pour partir à l'aventure avec toi, moi, je ne laisserai pas partir. Hein. Elle restera ici tout le temps, ma sœur.
Tu veux que je te dise quoi?
Dis-moi que tu cherches du boulot. Que tu vas en trouver.
Mais déjà, toi,
que la boxe, ça va passer au second plan. Que Mohamed et Fatine seront au premier plan. Moi, je m'en fous de ta boxe, Karim. Je te demande juste de t'occuper de mon neveu et de ma sœur. Un toit. Et à manger. Et pour ça, Karim, faut que tu lâches un peu la boxe. La boxe, elle va niquer ton couple.
Voilà, j'espère que vous aura donné envie de voir ce film, Nous marierons, oui. Un premier film de Dan Uzan avec Karimel Ayani et Sofiane Kasraoui. Vous restez...
Il est dans les salles. Hein,
oui, depuis mercredi. Voilà. Vous restez avec nous, on se retrouve après Temples pour les sorties.
Is that-
Les sorties de cette semaine, bien sûr, on va commencer par Silence de Martin Scorsese. Moi, je l'ai vu à la première séance mercredi du Ciné Cité Léal, celle, vous savez, où on vous offre un café très bienvenu avant ces 2h41 de projection. À écouter les conversations autour de moi ce matin-là, j'en ai déduit que j'étais entouré de fans de Scorsese qui ne savaient pas trop ce qu'ils allaient voir, excepté cette information, un film religieux que l'on rangerait a priori dans le chapitre La dernière tentation du Christ ou À tombeau ouvert. Même si tous les films de Scorsese gardent une dimension christique, même et surtout dans la violence et ce questionnement éternel chez le cinéaste, servir ou trahir, c'est la question de ce film, celle que vont se poser ces deux prêtres jésuites portugais au XVIIe siècle au cours d'une épopée au Japon où le christianisme est décrété illégal et ses fidèles atrocement persécutés. Un voyage pour retrouver le père Ferrara dont on dit qu'il s'est apostasié, donc a renié sa foi. Cela fait 25 ans que Scorsese tente de monter ce film dont il a découvert le livre en 90 alors qu'il tournait Rêve sous la direction de Kurosawa. Nous y voilà. Si ce film veut imiter les grandes fresques type Ran du cinéaste japonais, il n'y parvient pas. Pas de dimension épique dans ce silence malgré ces paysages grandioses, mais des répétitions de scènes d'abjure. Si tu ne renies pas ton Dieu et ta religion, tu seras alors au choix brûlé, scène noyée, autre scène, ébouillantée, encore une scène ou pendue. Des scènes interminables auxquelles le héros et nous devons assister, lui pour résister à la tentation, et nous pour je ne sais quelle raison, peut-être celle de se demander où Scorsese veut bien en venir. Finalement, ah, cette ode à la liberté de l'esprit, merci patron, mais fallait-il 2h40 pour le dire ?
C'est hélas le troisième ratage religieux de Martin Scorsese.
Ah non, À tombeau ouvert, c'est un très grand film.
Non, non, mais Tombeau ouvert, c'est pas, à mon avis, c'est pas tout à fait le truc. Tombeau ouvert, c'est fait partie des autres. Mais il y a deux films religieux précédents, c'est Kundun
oui,
et La dernière tentation du Christ. Là,
ouais.
On est dans le gros corpus, quoi.
Oui,
béton, voilà.
Ouais.
Et là, c'est le troisième, et ben, c'est un ratage. Alors que, effectivement, tous les autres films de Scorsese, À tombeau ouvert, comme tous les autres, comme Raging Bull, évidemment, La boxe, comme Taxi Driver, comme In Street, tous les films, sont des films où on voit des sortes de Christ aux outrages monter le chemin du Golgotha jusqu'à la fin du film. Eh bien là, c'est pas ça qui est en jeu, c'est un nouveau ratage religieux parce que tout ici est empesé, jusque y compris le vrai sujet du film que finalement Scorsese ne traite pas vraiment, qui est l'apostasie, c'est-à-dire le renoncement à la foi. Ça, c'était un très très grand sujet, et même chez lui, dans ce film-là, alors que c'était pas la réalité, les apostats n'ont aucun intérêt.
Et dire que c'est Daniel Day-Lewis qui devait faire le rôle tenu par Andrew Garfield.
C'eût été assurément mieux.
Brothers of the Night de Patrick Chia, c'est une histoire de frêles garçons le jour, des rois la nuit. Ils sont jeunes, roms et bulgares. Ils sont venus à Vienne en quête de liberté et d'argent facile. Ils vendent leur corps comme si c'est tout ce qu'ils avaient. Un film, Laurent, qui oscille délibérément entre documentaire et fiction.
Mais oui, Dan Uzan serait à son aise en ouais. voyant ce film, effectivement. Et je pense qu'il pourrait même vous plaire parce que C'est tout à fait étonnant, ces jeunes hommes qui parlent beaucoup entre eux de la Roumanie où ils ont des familles, où ils ont des femmes, où ils ont des enfants, et puis ils parlent aussi d'un lieu qui serait un bordel qu'ils fréquenteraient, mais en fait on ne les voit jamais dans ce bordel, ils n'y vont jamais, comme si en fait ils n'avaient de vie sexuelle que homosexuelle et tarifée sur place, et que l'autre vie leur serait presque par eux-mêmes refusée. On pense à un réalisateur à cause des ambiance à cause des couleurs, c'est Fassbinder, et évidemment ben c'est pas mal de penser à Fassbinder quand on voit un film, et peu à peu ces hommes s'humanisent profondément tant et si bien d'ailleurs que leur conversation en devienne presque tchékovienne. Il faut aller voir ce film parce qu'il est vraiment effectivement entre réel et imaginaire, mais avec une très très forte puissance d'inspiration.
Faut-il aller voir American Honey d'Andrea Arnold ?
C'est la question.
On avait beaucoup aimé son premier film, ah oui. Red Road, et célébré en même temps son entrée passionnante dans le cinéma. Suivront Fish Tank dans bon une film. Autre tonalité tout aussi passionnant. Ça commence à se gâter un petit peu avec Les Hauts du Hurlevent, et là, nouvelle expérience donc sur la jeunesse américaine en partant de Star. Elle a 17 ans, elle croise le chemin de Jake et sa bande. Ils sillonnent le Midwest à bord d'un van, ils vivent en vente de porte à porte, en rupture totale avec sa famille. Elle s'embarque dans l'aventure. C'est un road trip et une ode à la liberté. La première scène de séduction dans le supermarché est merveilleuse. Le reste, Laurent, est un enchaînement, une répétition de scènes de vannes aussi clinquantes qu'une pub de Coca-Cola qu'elle serait censée détourner pourtant.
2h43, ouais. 2h43, on espérait en fait à Cannes qu'elle compresserait, quoi, qu'elle aurait
ouais.
compris.
Qu'après Cannes, oui.
Oui, après Cannes, ouais, elle aurait compris les retombées presse qui étaient quand même absolument abominables sur la longueur. Parce que, comme vous le dites, il y a des scènes très très bien. Il y a une bande-son qui est un peu trop référencée et écrasante,
ouais,
mais qui est très belle. Ouais. Oui, mais le film, oui, mais alors du coup, on a l'impression que le film est une sorte d'une succession de clips vidéo à la très très belle musique et de clips que André Arnold fait. Je le rappelle parce que ça me fait toujours un plaisir de le rappeler que sur ce même sujet, c'est-à-dire des vendeurs itinérants, il y a Les Portes de la Gloire de Christian Méré-Palmer, sorti
oui
en 2001 avec Benoît Poulvorde et qui est un pur chef-d'œuvre.
Monsieur
voilà,
Delon, monsieur oui. Alain Delon, vous rappelez quand oh, il va voir
voilà,
ça.
Voilà, ça me fait toujours plaisir de rappeler ça.
Seul de David Moreau. Alors, c'est un film fantastique pour ados. Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme tous les matins, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour la presser, où sont ses parents. Elle prend son vélo, traverse son quartier, vite, tout le monde a disparu, sauf quatre autres jeunes.
Ben oui, alors c'est l'adaptation, faut le savoir, d'une BD énorme qui a beaucoup de succès qui s'appelle Seul chez les pré-ados, me dit-on, c'est le 10e
de Fabien Velman et Bruno Gazzotti.
On en est déjà, je crois, à 10 ou voire 11 volumes parus. Alors on se dit évidemment.
Là, il a compressé 5 volumes en un film.
Oui, ça oui, c'est un César du cinéma le type. Donc
en
effectivement,
1h30, c'est pas mal.
Oui, mais il faut le faire, oui. D'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup de matière, est-ce qu'il y a beaucoup plus de matière, je n'en suis pas sûr, notamment parce qu'il y a une sorte d'être maléfique, absolument importé de la BD, mais qui n'a guère d'intérêt. Au fond, c'est ça le souci, c'est que tout ça se délite totalement, alors qu'il y avait une idée géniale de début, c'est-à-dire cette espèce de ville où il n'y a plus personne, ça, c'est assez riche. Mais je trouve que c'est prendre les ados pour un peu des imbéciles que de leur servir cette soupe à la couleur de Benetton, un peu trop facile.
Je suis sûr que, par contre, vous avez, en revanche, vous avez beaucoup aimé le documentaire qui s'appelle Un paese di Calabria.
C'est un très beau, c'est un très beau documentaire. C'est incroyable parce que ça raconte.
Un paysan de Calabre.
Oui, non, mais attendez, c'est pas ça. C'est que c'est effectivement depuis 1998 dans ce village, il y a 200 Kurdes qui sont arrivés. Et ben ils ont tout remis à flot les Kurdes, dites donc. Ils ont fait en sorte que ce village revit, y compris d'ailleurs contre la mafia calabraise. On connaît la mafia calabraise, c'est pas des rigolos. Apparemment c'est pas des rigolos. Et donc, c'est 200 réfugiés kurdes, ils montrent que après tout, on peut faire des choses sur place quand on a été déplacé, et on peut même en remettre une couche sur la vie qui revient. Non, c'est un beau documentaire. En plus, ça se passe en Calabre. Excusez-moi, ce sont parmi les plus beaux paysages d'Europe.
On termine, on l'a beaucoup parlé la semaine dernière, mais il faut en reparler du concours de Claire Simon, sur le concours de la FEMIS, dont elle a suivi toutes les étapes, Laurent.
Oui, ça nous permettra de peut-être aussi de redire un mot d'hommage à Marc Nicolas, l'ancien directeur de la FEMIS, qu'on voit dans le film, parce que c'est lui à l'époque qui était, avant Nathalie Coste-Cerdan, directeur de la FEMIS, et il a ouvert les portes de la FEMIS à Claire Simon, qui fait un très très beau documentaire, et qui hélas, à mon avis, se répand un peu trop dans la presse pour dire le contraire de ce qu'elle montre dans ce documentaire, c'est-à-dire, non, la FEMIS n'est pas une école de pure reproduction sociale, c'est pas ça que dit le film, c'est pas ce qu'il montre, et je crois que nos trois invités la semaine dernière nous ont au contraire donné une belle image de la diversité, et une belle image aussi du contenu de ce documentaire. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup Claire Simon dévie dans son propos.
Laurent, on a 45 secondes pour trois cadeaux. Alors, comme vous avez évoqué...
On est hyper réactifs dans cette
en
émission.
En début d'émission, vous avez évoqué un grand cinéaste qui s'appelle Tarkovski.
Journal. Mais on est comme ça, nous aussi. Mais oui, c'est comme ça, on sait faire, nous. Voilà, la réactivité.
Merci, mille fois.
Non, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est absolument... C'est tout.
Je vais le lire cette nuit, il n'y a que 850 pages.
Ben oui, moi je pense
que c'est un magnifique journal.
Dans lequel on peut piocher les jours, les années, etc., les digressions.
Karim El Ayani, pour fêter votre entrée dans la carrière, un livre sur un de vos ancêtres prestigieux, Jean-Louis Trintignant. C'est une belle bio de Vincent Kivi qui reparaît aux éditions Point Seuil. Bio classique, mais très complète.
Laurent Tarkovski était édité par...
Pardon, chez Philippe Rey, nous ne l'avons pas dit. Merci Christine, bien. Absolument. Et puis, pour vous, Sofiane Kessraoui...
Qui veut faire du cinéma.
La BO, c'est important. Une BO d'un très beau film que nous avons beaucoup aimé ici. C'est le Pablo Larraine, Jackie. Et la musique est signée Mika Levy. Elle est publiée chez Milan Musique. C'est une sublime musique.
Merci beaucoup.
Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci Dan Uzan. Merci Karim El Ayani. Merci Sofiane Kessraoui. Oui, tous les deux interprètes de ce film signé Dan Uzan qui s'appelle Nous nous marierons, qui est sorti mercredi.
Retrouvez-nous sur franceinter.fr, notamment via le podcast.
Et voilà, au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Contes a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martine Messonnier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Anne Winfield.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Dan Usan, j'y étais.
Et moi, Sofiane Kesraoui, j'y étais.
Et moi, Karim El Ayani, j'y étais.
C'est samedi. Ce soir, vous dînez chez les Bertrand. Elle va refaire sa terrine de poisson, il parlera du mercato. Sauvez la soirée. Apportez des chocolats Jeff de Bruges, fondants, onctueux, raffinés. Faites-le pour eux et faites-le aussi pour vous. Jeff de Bruges, le plaisir partagé à partir de 10,70€ le ballotin.
Pour votre santé, évitez de grignoter.
Merci Gaël Braouezek d'avoir été aux manettes aujourd'hui.